Radio Capi. Oh, Capi.
Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Espagne-Argentine, c'est l'affiche au sommet pour la finale de la Coupe du Monde qui se déroule en Amérique. Une finale qui s'annonce indécise tant les talents sont nombreux dans les deux camps. Le coup d'envoi de cette grande finale sera donné à 19h GMT, soit 20h à Kinshasa. L'autre actualité, c'est la lutte contre les virus Ebola. Les autorités en charge de cette épidémie reconnaissent des retards dans le paiement des primes des agents de santé déployés sur le terrain. Elles évoquent des difficultés administratives et logistiques et annoncent des mesures pour régulariser la situation. Nous recevons dans ce journal l'auteur et humanitaire Ami Bossendo. Il nous présente son livre intitulé « Conflits et stress dans les organisations internationales humanitaires, comprendre, agir et prévenir ». Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Espagne, Argentine, c'est l'affiche de la finale de la 23e édition de la Coupe du Monde de football qui se joue ce dimanche aux États-Unis d'Amérique. Deux nations parmi les meilleures du moment. Deux parcours remarquables pour un seul objectif, atteindre les sommets du football mondial et soulever les prestigieux trophées. Une finale qui s'annonce indécise, tant les talents sont nombreux dans les deux camps. Le coup d'envoi de cette grande finale sera donné à 19h GMT, soit 20h à Kinshasa et 15h à New Jersey, aux États-Unis. Jean Galou nous en dit plus.
La finale de ce dimanche a tout d'un rendez-vous de légende. Un choc entre deux géants du football mondial porté par des joueurs d'exception. D'un côté, Lionel Messi. Ses performances confirment qu'il reste l'un des joueurs les plus décisifs malgré son âge avancé. Il est capable de faire basculer une rencontre à tout moment. De l'autre côté, Lamine Yamal, la jeune pépite espagnole de 19 ans, considérée comme l'un des plus grands talents de sa génération. Il a souvent cité Lionel Messi parmi ses modèles. Cette finale prendra des allures de passage de témoin entre un maître et son élève. Sur le plan collectif, l'Argentine réalise un parcours impressionnant. L'Albi Céleste a remporté ses 7 rencontres, inscrit 19 buts et en a concédé 8. L'Espagne a remporté 6 de ses 7 matchs et concédé un seul nul. Elle a inscrit 12 buts pour seulement un seul encaissé. Cette finale opposera donc la meilleure attaque à la défense la plus hermétique. Pour ce match, l'enjeu est historique. L'Argentine vise une 4e étoile après ses sacres de 1978, 1986 et 2022. L'Espagne, pour sa part, rêve d'ajouter un 2e titre mondial à celui remporté en 2010 en Afrique du Sud.
Les autorités en charge de la riposte contre Ebola reconnaissent des retards dans les paiements des primes des agents de santé déployés sur le terrain. Elles évoquent notamment des difficultés administratives et logistiques, tout en annonçant des mesures pour régulariser la situation. C'était au cours d'un point de presse animé hier samedi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Les précisions dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
La coordination de la société civile de l'Ituri estime que malgré les efforts déployés par les gouvernements et ses partenaires, la situation sanitaire demeure préoccupante dans cette province, principal foyer de l'épidémie d'Ebola. Parmi les principales difficultés figure le faible engagement des communautés liées selon la société civile à une insuffisance des activités de sensibilisation et de communication. Elle affirme que certaines personnes présentant des symptômes continuent de se cacher dans leur domicile. D'autres décès surviennent au sein des communautés avant toute prise en charge. La structure évoque également le retard observé dans les interventions des équipes chargées des enterrements dignes et sécurisés, ainsi que le manque d'ambulances pour les transports des malades. La société civile fait état de la saturation de plusieurs centres de traitement d'Ebola, où les capacités d'accueil seraient parfois dépassées. Autre préoccupation soulevée, l'insuffisance des financements destinés au paiement du personnel de santé et à l'acquisition du matériel nécessaire aux enterrements dignes et sécurisés, notamment les cercueils et les équipements de protection. estimant que les différentes missions effectuées récemment par les ministres de la Santé n'ont pas permis de résoudre l'ensemble de ces difficultés, la coordination de la société civile appelle à une implication plus forte des autorités nationales. Nous n'avons pas encore la réaction de l'équipe des ripostes en Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Les secteurs humanitaires en République démocratique du Congo demeurent l'un des domaines les plus exposés au stress et requièrent des mesures adaptées. C'est l'avis de l'écrivain et humanitaire Ami Bossendo qui vient de publier un ouvrage consacré à cette problématique intitulé « Conflits et stress dans les organisations internationales humanitaires, comprendre, agir et prévenir ». Ce livre de 450 pages analyse en profondeur les réalités difficiles auxquelles sont confrontés les acteurs humanitaires au quotidien. Se voulant une œuvre de référence, il met en lumière le fait que le stress et les conflits ne constituent pas seulement des expériences individuelles, mais représentent des véritables enjeux susceptibles d'affecter la mise en œuvre des programmes et de compromettre la réussite de projet. Selon Ami Bossendo, il est désormais urgent que les organisations investissent davantage dans la prévention du stress, la gestion des conflits et le bien-être de leur personnel. Ami Bossendo est au micro de Ronéline Tibonera.
Il faut que les organisations arrivent à donner aux employés, à donner au personnel, à donner aux collègues des outils susceptibles de faire face au stress. Je l'ai toujours dit, je prends un exemple simple. C'est un peu comme s'il fait chaud, vous voulez sortir, le soleil est tellement ardent, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez prendre un chapeau ou un parasol pour se couvrir contre le soleil. Donc il faut que les gens arrivent à développer des stratégies de gestion du stress et tout ça, dans cet ouvrage-là, j'ai donné des moyens, j'ai donné des outils efficaces et puis forts, par exemple, pour les managers aussi, comment commencer le travail, les outils à utiliser, par exemple, manger la grenouille, commencer le matin déjà, si les tâches sont compliquées, difficiles, commencer par la tâche qui est la plus difficile et si déjà vous l'abordez, vous réussissez, la journée ne sera pas stressante. Par exemple, les outils, j'ai cité dans cet ouvrage-là, les outils comme les cabas, n'est-ce pas? Voilà ce que j'ai déjà fait à faire et puis ce que je ferai après. Donc, j'ai donné plusieurs outils à l'intérieur.
Accélérer la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC, c'est l'objectif de la réunion de coordination présidée vendredi 17 juillet au Palais de la Nation par le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, Dr Mbongani Kabila Polidor, en présence des secrétaires généraux des administrations sectorielles et des responsables des établissements de facilitation de la CSU. Les participants ont évalué l'état d'avancement de la réforme. Dr Mbongani Kabila Polidor, qui revient d'une importante réunion tenue à Bruxelles, en Belgique, dans ce cadre invoque les grands axes de ce processus de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en RDC. Il est au micro de Jean-Marc Matouaki.
Nous voulons que nos partenaires viennent s'aligner à cette démarche-là. Si nous avons un plan national de développement sanitaire, ou un plan stratégique national de couverture santé universelle, eh bien, c'est nous qui avons le lead sur ça. Et nos partenaires sont appelés à s'appuyer, à s'aligner à cette démarche, pour qu'on soit cohérent. À Bruxelles, nous avons présenté sur la vision de la RDC, nous étions dans un panel assez important. Et la RDC a été le seul pays en dehors de l'Europe qui a été représenté. C'est pour vous dire l'importance, à cause de toute la diplomatie du centre du chef de l'État, que la RDC est en train de prendre aux yeux du monde avec vous. La participation de beaucoup d'entre vous, vous savez que nous sommes engagés dans un processus de mobilisation des ressources financières domestiques. Et donc, cette démarche a été appuyée par beaucoup d'entre vous. Et c'est ainsi que, le mois de mars, la taxe de promotion de santé est effective. Et elle est en train de générer pas mal de ressources. Nous sommes dans le processus de mise en place de l'assurance maladie obligatoire qui devra aussi générer de nouvelles ressources en faveur de notre système.
Pour la petite histoire, la RDC dispose depuis le 7 décembre 2021 de son plan stratégique national pour la couverture santé universelle. L'adoption de ce plan stratégique est une importante étape dans le processus d'accès égalitaire aux soins de santé des Congolais. Des décisions dites cruciales par la BCC pour l'économie congolaise ont été annoncés ce vendredi à Kinshasa par le comité des politiques monétaires pour l'année en cours. Dans un point de presse tenu peu après cette troisième réunion des CPM, le gouverneur de la BCC cite l'abaissement du taux directeur passant de 13,5 à 12,5% et du taux de la facilité de prêt marginal de 17,5 à 16,5%, l'introduction d'une nouvelle maturité du bon BCC ainsi que le maintien du taux des rémunérations des dépôts. André Wameson Kwalolo qui a également lancé un appel aux services publics et aux opérateurs économiques à privilégier les paiements en francs congolais. Les précisions avec Elachim Balou.
Ces décisions interviennent dans un contexte marqué par une croissance économique projetée à 4,8% cette année. André Wameso.
Ces décisions viennent conforter celles prises lors de la précédente réunion d'avril 2026 et se fondent sur les perspectives tant sur le plan international que national.
Pour le gouverneur de la BCC, la baisse du taux directeur et l'introduction d'une nouvelle maturité du bon BCC répondent à des objectifs précis.
L'introduction de la maturité plus longue du bon BCC vise à renforcer la gestion de la liquidité bancaire, répondant ainsi à la nécessité de stériliser durablement toute liquidité oisive.
La Banque centrale parle aussi des risques qui demeurent malgré cette performance.
Il s'agit notamment de l'expansion de la liquidité bancaire consécutivement à celle des dépenses publiques en lien avec le conflit dans la partie est du pays. L'expansion des dépenses cycliques des ménages relatives à la rentrée scolaire et la hausse des coûts des produits importés à cause du conflit autour du détroit d'Ormuz.
Et puis la régie des eaux passe au numérique. L'entreprise publique modernise la relève des index des compteurs d'eau grâce à l'application Régie Relève, désormais utilisée sur tablette par ses agents commerciaux. Déjà déployée dans plus de 32 agences à Kinshasa, l'opération est actuellement effective à Limete, Matete, Kinsenso, Lemba et Ngaliema. Son extension à d'autres communes est annoncée dès le mois prochain. Les détails avec Benjamin Moudoumbi.
C'est une innovation que la Régie des Eaux veut rapprocher de ses abonnés. Dans un communiqué rendu public le vendredi 17 juillet, l'entreprise annonce l'utilisation de l'application Régie Relève dans le cadre de la relève des index et des compteurs d'eau. Une révolution numérique qui, selon la société, ne constitue ni un danger ni une source d'inquiétude pour les clients. Mieux encore, la technologie permettra une lecture automatique des index, la prise des photos des compteurs et la géolocalisation des installations. Une combinaison qui vise à améliorer la qualité du service et à garantir des données plus fiables sur les consommations d'eau. Message de la Régie des Eaux aux abonnés, ouvrir la porte à cette innovation et accompagner sa mise en œuvre par un esprit de collaboration pour en assurer le succès.
Ce journal se poursuit dans la province du Haut-Katanga où les agents de la Commission nationale de prévention routière CNPR sont déployés sur les différentes artères de la ville de Lubumbashi pour réguler la circulation. L'objectif est de lutter contre les embouteillages qui deviennent récurrents suite à la croissance du parc automobile à Lubumbashi. Paul Munanga a accompagné les agents de la CNPR sur le terrain. Voici son reportage.
Nous sommes sur le boulevard Msiri, l'un des plus importants axes routiers de la ville de Lubumbashi. Sur cette artère, le trafic est abondant. Vêtus des gilets de couleur jaune et noire sur lesquels on peut lire CNPR Katanga et tenant des bâtons lumineux en main, les agents sont déployés sur le terrain à bord d'une Jeep 4x4. Au niveau du carrefour Texaco usine sur le boulevard Msiri, les agents de la CNPR régulent la circulation et sensibilisent certains chauffeurs à ne pas faire usage du téléphone en conduisant. Des minibus de transport en commun sont accusés de bloquer souvent la circulation. Clarisse Elumbo Maïssa est agent de la CNPR.
Le problème qui crée beaucoup plus d'embouteillage, c'est avec le problème de taxi-bus. Ils s'arrêtent n'importe où. En tout cas, tous les jours, comme vous voyez ici, nous sensibilisons qu'il ne faut pas garer vos véhicules ici. Tous les jours, ils retournent toujours là.
En outre, les agents de la CNPR aident les piétons à traverser la chaussée en toute sécurité, comme l'explique Gabi Okoe.
Nous sommes venus pour les aider à marcher bien sur la voie publique.
Regardez là-bas. On fait arrêter les véhicules qui viennent de l'aéroport pour faire passer les piétons. Donc, nous réglons en même temps les verretiers et aussi les piétons.
Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Au Congo central, la mode africaine continue de séduire les jeunes générations et de créer des opportunités d'emploi. Chaque année, dans la ville de Matadi, des dizaines de jeunes filles se forment en coupe et couture. Objectif, valoriser les tissus et les styles africains à travers leur création tout en acquérant une autonomie financière grâce à un métier pouvant leur assurer des revenus durables. Selon ces jeunes filles, au-delà de l'apprentissage d'un métier, elles souhaitent démontrer à travers leur création que la mode africaine reste moderne, élégante et porteuse d'une identité culturelle à préserver. Élise Kavira nous en parle dans ce reportage.
À Matadi, les machines à coudre tournent au rythme des ambitions des jeunes filles. Dans cet atelier de formation, Aurélie se réjouit des progrès accomplis en seulement quelques mois.
J'avais un grand problème avec la découpe, mais en seulement 2 mois, j'arrive à bien couper et coudre. Aux jeunes, je les encourage à apprendre un métier qui pourra les aider dans l'avenir. En restant sans rien faire, ils n'auront aucune valeur dans la société.
Si ces jeunes filles apprennent aujourd'hui à manier le mètre ruban, les ciseaux et la machine à coudre, c'est grâce à l'engagement des passionnés déterminés à transmettre leur savoir-faire. Didier, styliste et initiateur de cette formation, explique les motivations qui l'animent.
Moi aussi j'avais été formé. Demain nous ne serons plus là. Devons-nous laisser notre lutte pour la mode africaine s'éteindre? Il faut former des successeurs pour transmettre notre savoir-faire. Autrefois, le travail de couturier était considéré comme un travail d'analphabète. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que ce métier nourrit bien son homme. Même en restant chez soi, on peut travailler.
Pour ce formateur, le défi est désormais de bénéficier d'un accompagnement des autorités locales afin d'offrir un meilleur encadrement à ces jeunes et de garantir la pérennité de la mode africaine, patrimoine culturel et source d'emploi pour plusieurs générations. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Revenons à Kinshasa. 3 ans après la mort de l'opposant Chérubin Okindé, les circonstances de son décès continuent d'alimenter les interrogations. Alors que le parquet avait conclu à un suicide, sa famille et son parti Ensemble pour la République rejettent cette thèse et réclament toujours que justice soit rendue. À l'occasion d'une messe d'action de grâce organisée ce vendredi à Kinshasa, en mémoire de l'ancien ministre et député national, les responsables de son parti ont renouvelé leur engagement à poursuivre les combats qu'il incarnait contre ce qu'il qualifie d'arbitraire et de mauvaise gouvernance. Écoutons Dieudonné Bolenguentenge, secrétaire général d'Ensemble pour la République, dans cet extrait proposé par Grâce Hamzati.
Nous ne pouvons que, en nous remémorant ce qu'a été sa tragique disparition, jurer de ne pas abandonner la lutte qu'il a menée au milieu de nous et que nous avons menée ensemble en vue de l'avènement d'un Congo meilleur. Nous croyons aux potentialités de notre pays. Nous sommes convaincus que ce pays a les moyens d'apporter le bien-vivre et l'épanouissement à chacun, chacune de ses enfants. Et si on n'arrive pas à atteindre cet objectif, plus de 60 ans après l'indépendance du pays, c'est à cause parfois des querelles politiciennes, mais aussi et surtout à cause de la malgouvernance. Certaines familles politiques ou certaines personnalités, quand ils arrivent au pouvoir, ils oublient que le pays, les biens du pays, représentent un bien commun. Et un bien commun ne peut être géré qu'avec des règles que tout le monde respecte. Chérubin s'est dressé contre l'arbitraire et il y a laissé sa vie. Nous sommes toujours aujourd'hui dressés contre l'arbitraire. Tant que le pays sera gouverné par l'arbitraire, il faut qu'il y ait des filles et des fils de cette terre congolaise qui s'élève pour dire non. À l'exemple de Chérubin.
Actualité internationale.
À Madagascar, le gouvernement a décidé vendredi 17 juillet 2026 le retour de l'état d'urgence énergétique, un dispositif réactivé 2 semaines seulement après le rétablissement de l'ajustement automatique des prix du carburant. En cause, le regain des tensions au Moyen-Orient qui fait de nouveau planer le risque d'une pénurie sur la Grande Île.
L'invité.
Notre invité est l'auteur et humanitaire Ami Bosendo. Il nous présente son livre intitulé « Conflits et stress dans les organisations internationales humanitaires, comprendre, agir et prévenir ». Cet ouvrage, publié cette année aux éditions Les Harmattans à Paris, attire l'attention des managers d'ONG sur les dangers auxquels le personnel est exposé si aucun investissement n'est réalisé pour prévenir les conflits et le stress. Ami Bosendo répond aux questions de Ronéline Thibonera.
Bonjour, monsieur Ami Bassendo.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de cette publication?
Bon, cette publication, en tout cas, je peux le dire, c'est une publication qui m'a motivé parce que, comme vous le connaissez, le secteur humanitaire est entouré de beaucoup de stress. Vous savez que c'est un contexte où on intervient dans des situations, des épidémies, des conflits armés, des crises. Donc, toutes ces différentes situations, si vous le dire, prouvent que le contexte humanitaire est vraiment pour lui aussi de stress. Donc, il fallait écrire pour que j'essaye un peu, voilà, d'attirer l'attention des managers, des organisations, des équipes pour le bien-être et puis, voilà, la protection contre certains risques psychosociaux dans le milieu du travail humanitaire.
Alors, dans le 450 pages, tel que vous le présentez, oui, c'est beaucoup d'idées, c'est beaucoup de points, mais de manière synthétique pour l'ensemble de la communauté qui nous écoute, est-ce qu'on peut avoir en liminaire des points essentiels de cet ouvrage?
Bon, les points essentiels sont vraiment clairs, c'est que, vous savez, d'abord, il fallait identifier les facteurs de stress, si vous voulez, dans le milieu humanitaire, mais aussi des conflits qui surgissent de tout le temps, s'il faut le dire, mais aussi essayer de prévenir, donc mettre en place des outils susceptibles de faire face aux situations de stress que traversent les humanitaires au niveau international. Donc essayer de prévenir, mettre les outils sur le terrain pour essayer vraiment de prévenir et apporter des solutions durables pour permettre en fait aux organisations internationales humanitaires d'être performants. Parce que les gens qui essaient d'apporter des solutions humanitaires sur eux-mêmes ne sont pas pris en considération, si leur santé mentale n'est pas au top, ils vont pas apporter des résultats escomptés, ils vont pas apporter, voilà, des réponses efficaces. Donc ils seront même, eux aussi, je vais le dire, ils seront problèmes face aux vulnérables. Donc pour que les situations humanitaires puissent avoir des réponses aussi de qualité, il faut que les stress soient bien gérés, il faut que les conflits que le personnel traverse dans le milieu humanitaire soient vraiment résolus d'une manière efficace, je vais le dire.
Dans les commandes mortelles, lorsque l'on essaie d'entrer dans le fin fond de la société, de la communauté, l'on se rend compte que les êtres les mieux payés, c'est là qui sont considérés, c'est là qui mènent une très bonne vie, ce sont les humanitaires. Et lorsque vous parlez du stress, est-ce que ce n'est pas dire une chose et son contraire?
Voilà, c'est ce que plusieurs personnes pensent. C'est ce que plusieurs personnes pensent, mais je peux vous le dire, d'ailleurs vous en savez plus, lorsqu'on donne une offre ou bien on lance une offre pour les humanitaires, on leur dit très souvent, voilà, il faut être capable de travailler sous stress.
Exact.
C'est-à-dire que parmi les facteurs du stress, le milieu déjà humanitaire est stressant. Vous avez des situations, je prends à titre exemplatif, très récemment, j'ai lu un rapport ce matin même au niveau de l'Ituri. Voilà, les humanitaires qui sont sur place, il y a eu plus de 68, voilà, incidents, mais 50 incidents sont sur les humanitaires. Ils sont agacés, ils sont menacés. Donc, ils essaient d'apporter des situations, des réponses humanitaires sur Ebola, mais ils sont agressés. Voyez-vous, donc, le secteur humanitaire, c'est vraiment un secteur où il y a le stress. Et qu'un manager ne sait pas utiliser la personne, travailler avec la personne. Il y a aussi les bore-out, c'est que la personne n'est pas bien utilisée, tel que décrit son cahier de charge. Il peut avoir des problèmes psychologiques, des problèmes psychosociaux, mais aussi les burn-out, c'est que voilà, la tâche qu'on donne à la personne ne répond pas à ce que lui attend faire. Il peut développer des problèmes psychosociaux et susceptibles, voilà, de toucher sa vie. Sa vie même privée. Donc, j'ai donné plusieurs outils à l'intérieur. Vous avez donc, il y a plusieurs outils que j'ai essayé d'imprimer dans cet ouvrage que je motive les managers, je motive les organisations internationales humanitaires à utiliser, à exploiter cet ouvrage-là pour que, voilà, la qualité des réponses humanitaires soit vraiment au niveau top.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci beaucoup pour votre accueil, monsieur le journaliste Ron Lee. Je vous remercie sincèrement.
Merci. C'était notre invité, ami Bossendo, qui s'entraîne avec Ronéline Thibonera. Voilà qui met fin à ce journal parlé dominical de la mi-journée, préparé pour vous par Lievin Mbouingavoubou et Jean-Désiré Kanyama. La mise en onde était assurée par Jean-Claude Ntiala, Mwana Makengo Ntswalu. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.